carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Édouard pour nous parler de son livre Baleines et Déesses, paru chez William Black & Co. Édition. Membre de l'Académie des Beaux-Arts, le sculpteur Pierre-Édouard vient nous parler de ce livre sur son œuvre gravée, dont il a également écrit le texte. Pierre-Édouard, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans ce livre, consacré à l'un de vos thèmes favoris, c'est-à-dire l'Ève d'Autun et la déesse Nout égyptienne et tout ce qui concerne l'arche et la voûte, vous travaillez depuis plus de 20 ans sur une forme particulière qui est cette forme d'une grande arche. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs quelle est cette forme? Comment vous la présenteriez?
En fait, ce n'est pas ni l'Ève d'Autun, parce que l'Ève d'Autun, en fait, si vous voulez, il n'y a qu'une seule chose, d'ailleurs je le dis dans le texte, c'est l'aplomb sur les genoux et la position horizontale qui m'intéresse dans l'Ève d'Autun. Sinon, bon, il n'y a pas grand point commun par rapport à l'Ève d'Autun. Quant à Nout aussi, c'est l'horizontalité du corps. Nout, c'est la fresque égyptienne qu'on retrouve dans certains tombeaux comme ça. Elle est totalement horizontale. C'est cette horizontalité du corps qui m'intéresse, et c'est pour ça que je me suis intéressé aussi à ces figures-là. Et l'horizontalité du corps, justement, il m'amène tout de suite à une sorte d'idée de l'arche, presque en tant qu'archétype.
Un archétype sur lequel vous travaillez donc depuis longtemps,
Oui, j'ai travaillé depuis très longtemps, mais je n'ai pas l'impression d'y travailler depuis longtemps. J'ai l'impression de le commencer tout juste, à dire la vérité. C'est-à-dire que c'est des approches successives. Je ne suis pas du tout au bout. Je suis encore au début, j'ai l'impression.
Ce n'est pas une répétition pour vous? Loin de là, pas du tout.
Peu importe la répétition ou pas, c'est une exploration qui me préoccupe pas du tout. J'essaye de faire quelque chose, en fait, depuis longtemps, j'essaye de le faire. Et l'œuvre, finalement, c'est les essais pour le faire, c'est tout.
C'est des variations de
non,
cette œuvre.
Non, c'est pas des variations, ce sont des essais. À chaque fois, c'est une tentative de le faire. Parce qu'une variation, c'est quelque chose qui est prévu depuis le départ. Une variation, c'est quelque chose qui s'organise, c'est des variations autour d'un thème, on dit. Là, c'est même pas des variations autour d'un thème, enfin, ça pourrait être reçu comme ça a posteriori, mais pour moi, qui le vis a priori, ce n'est pas ça, c'est à chaque fois un essai de réaliser ce que je veux faire. Et comme ce que je veux faire à chaque fois ne me satisfait pas totalement, ou pas du tout, ou un petit peu, mais en tout cas jamais vraiment, j'ai toujours l'impulsion que la fois d'après, je vais y arriver. Ben, ça se poursuit comme ça, parce qu'à chaque fois, je pense que je vais faire mieux, je pense que je vais arriver à faire ce que je voulais vraiment faire. Et donc, j'essaye ça d'une manière perpétuelle d'arriver à faire ce que je veux.
Donc, ça serait le mot essai et non pas celui de série ou de variation.
Ah non, la série, non.
Ça n'a rien à voir.
Non, c'est même pas essai, c'est des tentatives d'incarner une certaine vision que j'ai. C'est des tentatives de l'incarner et à chaque fois, c'est une tentative. Mais cela dit, a posteriori, comme vous le dites, ça apparaît très certainement comme des variations, parce que le livre, par exemple, il regroupe toutes les gravures que j'ai faites sur ce thème. Donc, le livre lui-même, je pense qu'il apparaît comme une suite de variations. Mais moi, je ne l'ai pas conçu a priori comme ça. C'est à la fin, je m'aperçois que c'est ça. Et en fait, le thème, ce dont je me suis rendu compte à la fin, c'est-à-dire en faisant le livre, en regroupant les gravures, le thème qui est toujours le même, il a considérablement bougé dans le temps, tout en voulant faire... C'est tout de même le même but que j'ai eu d'un bout à l'autre, mais ce qui s'est passé est extrêmement différent, et surtout à la fin d'ailleurs.
De quoi vous êtes-vous rendu compte, en fait, justement en rassemblant toutes ces gravures? Vous avez même donné un nouveau nom à ce thème qui vous obsédait.
C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire le truc, en fait, les dernières qui pour moi sont beaucoup plus proches de ce que je veux vraiment faire, moi, de mon point de vue à moi, j'ai pratiquement l'impression que les dernières, c'est ce que je voulais faire au début, quand j'ai fait les premières. C'est-à-dire que les dernières sont beaucoup plus proches de ce que je veux faire réellement que les premières, qui étaient déjà dirigées vers la même chose, mais sans que je le sache. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on aboutit finalement à quelque chose qu'on ne savait pas que l'on cherchait vraiment, et alors qu'en réalité c'était ça depuis le début.
Qu'est-ce que vous avez appris dans la forme de l'arche? Vous dites dans ce texte, l'Ève d'Autun de Gilibertus m'en offrait un exemple et j'avoue sans remords lui avoir volé cet aplomb sur les genoux et le corps en apesanteur. Mais c'est surtout Nout, déesse égyptienne de la voûte céleste, qui m'a si souvent encouragée et préservée. Elle demeure dans certaines tombes égyptiennes, à la lisière du plafond et des murs, et elle abrite hommes, bêtes et choses sous l'arche colossale que décrit son corps allongé. Elle m'a tant appris sur les mystères plastiques qui régissent l'arche, cette forme archétypale, qui est une voûte et qui est aussi une montagne hors d'atteinte. Ève et Nout sont bien des déesses. Donc on a un petit bout du titre,
oui,
baleines et déesses.
Tout à fait.
Commençons par les déesses.
Oui.
Mais quelles sont ces formes que vous, là, qu'est-ce que vous avez appris dans cette forme de l'arche?
Je pense que c'est une manière d'envisager l'espace. C'est difficile à dire parce que ce sont des géométries indicibles, des géométries de l'espace mystérieuses qu'il y a dans ces choses-là, et qu'on approche petit à petit, qu'on ressent petit à petit. Il n'y a pas quelque chose que j'ai appris, bien évidemment, mais c'est le principe, si vous voulez, de ces dessins égyptiens, parce que finalement il s'agit de dessins, ces peintures-là, c'est toujours un dessin. Et ce dessin, bah, c'est le secret de la proportion. C'est que c'est l'abord de ces œuvres d'art, c'est tout est dans le secret de la proportion.
Vous écrivez, j'avais l'impression d'être accolé à une gigantesque surface, j'y arpentais l'espace, m'y accrochais comme un alpiniste à sa montagne dont le salut est de s'y frayer un chemin. Mon unique souci était d'y trouver du sens. Un sens, pardon.
Oui, mais alors ça, là, je parle de ma sculpture. Je parle des grandes sculptures que je fais.
Moi, j'avais pensé que c'était aussi des dessins de...
Non, ça, c'est quand je parle des grandes sculptures.
D'accord.
Mais de toute manière, c'est la même chose, c'est pareil. Oui, parce que si vous voulez, il y a quelque chose qui se produit dans la sculpture. C'est que ce que je dis d'ailleurs dans le texte, à un moment, j'explique qu'on a beau avoir des idées ou quelques concepts ou tout ça, et que quand on aborde le travail de la sculpture ou le travail du dessin ou de la peinture, vraiment, la forme dans l'espace fait sauter absolument toutes les idées qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec une idée, si on veut incarner cette idée, lui donner une vie. Enfin, c'est même pas une idée, parce que c'est très laid le mot idée. C'est une vision qu'on a, ou un contenu, mettons un contenu, auquel on veut donner vie. On arrive avec ça, mais en le mettant en pratique, c'est-à-dire en mettant la forme en pratique, en commençant à travailler, on s'aperçoit que il n'y a plus de concept qui tienne. C'est-à-dire que tout ce qui est conceptuel saute, parce que la forme, l'articulation des plans, le dessin, tout cela ne supporte pas la moindre idée. C'est-à-dire que c'est deux mondes qui ne se fréquentent pas. Ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent même pas se croiser. Arriver avec une idée pour faire une ligne, c'est impensable. Une ligne ne se fait pas avec une idée. Une ligne se fait avec la sensation, avec l'espace. Ça n'a rien à voir avec une idée. Donc si vous voulez, on se rend très vite compte que tout ce que l'on avait pu penser, tout ce que l'on avait échafaudé, tout ça tombe à l'eau. Et on se retrouve face à l'espace, à la forme, à l'articulation de cette forme, dans laquelle il n'y a plus de... Pour qu'elle puisse vivre cette forme, pour qu'elle puisse prendre vie, eh bien, il faut précisément qu'il n'y ait plus de pensée. et d'ailleurs ça se produit automatiquement, c'est un phénomène qui se produit automatiquement, les pensées, les conceptualisations sautent en cours de route pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus important, que je ne saurais pas vous nommer, mais qui prend la place de cette conceptualisation, qui prend le relais et qui agit et qui coordonne les formes les unes entre elles, ou pas. Mais en tout cas, le chemin se continue avec quelque chose que l'on ne connaît pas. Et quand on aborde la forme, automatiquement, on se trouve confronté à ça.
Alors, de quoi vous vous êtes rendu compte quand vous avez justement réuni toutes ces gravures récentes? Vous vous êtes rendu compte que se dessinait autre chose en filigrane de ces voûtes et de ces corps?
Oui, alors c'est l'histoire de la baleine, parce que c'est ce que je raconte dans le texte, c'est que il y a au départ pour moi, d'ailleurs j'en parle un petit peu au début du texte, il y a au départ pour moi une chose qui est fondamentale. Depuis longtemps d'ailleurs, depuis que je dessine, moi j'ai toujours une grande attirance pour la monumentalité. D'ailleurs tout ce texte et tout ce bouquin
est un jeu là-dessus.
La base fondamentale de tout ça, c'est la monumentalité. Le reste importe peu. Donc la monumentalité, c'est quelque chose que je cherche, que j'ai toujours cherché, et c'est quelque chose qui n'est pas si simple ni à définir, ni à cerner, parce que la monumentalité, je ne sais pas si c'est la monumentalité, c'est le sans-mesure, c'est quelque chose qui échappe à la mesure, c'est démesuré.
Oui, c'est le mot que vous utilisez, la démesure.
C'est une démesure.
Mais ce n'est pas au sens de l'hybris des Grecs, c'est la démesure dans le côté sans limite, indéfini.
Mais c'est dans tous les sens. C'est la démesure, c'est... Il y a quelque chose que je sais que je cherche à travers ça, et définir ça, c'est très difficile, parce que ça n'a rien à voir avec la taille. Parce que vous pouvez avoir des tout petits tableaux qui sont totalement monumentaux et démesurés, et des tableaux gigantesques qui sont tout petits. Ce n'est pas la taille, c'est un principe intrinsèque à la forme, à la plastique, qu'il est très difficile de cerner, mais en tout cas, on le voit d'une manière très claire dans les œuvres qu'on peut admirer d'autres artistes. On voit très bien quand ça touche au monumental ou quand ça n'y touche pas.
Alors vous pourriez nous donner un exemple ?
Bah oui, par exemple, Piero della Francesca touche au monumental, Picasso touche au monumental dans les baigneuses, Giacometti touche bizarrement dans les statues toutes petites, Michel-Ange évidemment, et puis vous avez des choses qui n'y touchent jamais, dont c'est pas du tout le principe. Moi c'est un principe qui me titille toujours, moi, dans mon travail. Je sais que je recherche toujours que la forme aboutisse à la monumentalité.
Qu'est-ce que c'est la monumentalité, là ?
Ben, je vous dis, ça, c'est très difficile à expliquer. La monumentalité, c'est une grandeur de la forme, et cette grandeur...
N'a rien à voir avec la taille.
N'a rien à voir avec la taille, mais c'est une grandeur de la forme.
Est-ce que c'est ce que vous appelleriez la vérité de l'œuvre ?
Non, pas du tout. C'est une échelle, c'est quelque chose qui se situe tout d'un coup hors échelle. Il y a forcément une relation aussi avec le réalisme, parce qu'il y a très peu d'œuvres monumentales qui soient réalistes. Le monumental, par définition, n'est pas vraiment réaliste, puisqu'il est hors échelle. Le réalisme, c'est précisément d'être dans l'échelle des choses. Enfin bref, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et alors, à travers... Ce qui est drôle, c'est que dans la recherche menée et en sculpture et en peinture, enfin en dessin plutôt, sur le thème que je travaillais de ces corps allongés, je me suis aperçu, ce qui n'est pas un hasard, puisque c'est ça que je cherche, finalement ça ne m'étonne pas, qu'il y avait une sorte de forme d'une baleine qui se dessinait dessous, et que le corps de femme, en fait, je l'avais abordé, sans m'en rendre compte, comme une sorte de silhouette de baleine. Et il y a une logique, puisque l'immensité du corps de baleine précisément, il a ce côté monumental. Alors, ce qui est très amusant, c'est que, remarquant ça, j'ai relu des passages de Melville,
de Moby Dick.
Et alors, il y a énormément de chapitres tout à fait intéressants, qu'en général, on passe quand on lit Moby Dick, mais en réalité, on ne devrait pas les passer parce qu'ils sont très intéressants. Et où il parle de l'histoire de la baleine, du corps de la baleine, et il dit des choses très intéressantes, pour moi en tout cas, parce que c'est des choses qu'aurait pu écrire un sculpteur. Par exemple, il dit à un moment que une des causes de la monumentalité, de l'aspect de grandeur de la baleine, c'est qu'elle n'a pas de nez. Il dit tous les animaux ont un nez, elle n'en a pas. Et alors c'est très marrant parce que si on est sculpteur, enfin je pense que tous les sculpteurs le savent, le nez dans un visage, c'est quelque chose qui transporte l'anecdote, c'est quelque chose qui signifie le caractère, c'est quelque chose qui vous le rend très humain. Si vous ôtez le nez dans un visage, il prend tout de suite une grandeur. Donc il ne s'est pas trompé Melville, c'est une réflexion totalement sculpturale. Et donc il a senti, il a parlé justement de la baleine, de cette forme, du mystère de la proportion de ce corps, enfin c'est du mystère de la proportion des formes. C'est pour dire que c'est proche de ce que j'ai cherché. Enfin, je suis tombé là-dessus parce que je cherchais ça, tout simplement.
D'où le titre ?
Baleines et déesses.
Baleines et déesses.
Voilà.
Et le passage à la... Enfin, j'appelle ça le passage, mais c'est peut-être pas le bon terme, à vos dessins, à la gravure, à l'eau forte, là, puisque ce sont des eaux fortes qui sont présentées dans ce livre et dans une exposition aussi qu'on peut voir à la Galerie Document dans le 6e arrondissement, au mois de mars, là, jusqu'à mi-avril 2013. Dans ces dessins, vous permettent d'explorer d'autres voies, de cheminer autrement, et sur la voie de la miniaturisation. Vous expliquez que vous, justement, pour cerner cette monumentalité, c'est par ce changement d'échelle. Est-ce que je vous traduis bien ?
Ben oui, c'est-à-dire que la gravure, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très proche de la sculpture. Bizarrement, je me sens assez libre avec la gravure. Et parce que finalement, la gravure, ça se maltraite comme de la cire ou comme de la terre. C'est quelque chose qu'on peut maltraiter. C'est quelque chose qu'on peut graver et puis on peut effacer son trait, on peut le gratter, tout est possible. C'est pas comme un papier qu'il faut pas trop abîmer. Là, on peut y aller, c'est une forme qui résiste. Donc ça permet, et en plus, la gravure, c'est quand même, moi, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est des clairs et des sombres. Donc, c'est quand même mon langage. Moi, j'ai besoin que du clair et du sombre. C'est la seule chose qui m'intéresse, que ce soit dans la sculpture ou n'importe où. Donc j'ai ça dans la gravure et la possibilité de travailler sans fin. Et le petit format de la gravure donne aussi une liberté qui permet une certaine aventure et qui donc m'a permis, parallèlement aux grandes sculptures, d'explorer ça en petit.
Pierre-Édouard, vous avez remarqué qu'il y avait donc des écrivains qui parlaient comme des sculpteurs. Et vous, dans ce travail, dans ce regard que vous portez sur votre œuvre gravée, vous faites à votre tour narrateur, ou disons que le sculpteur se fait peut-être narrateur en évoquant, en convoquant ces différentes visions que vous offrez au public. Vous sentez-vous narrateur dans cette démarche ?
Non. Pourquoi narrateur ? C'est exactement le même principe que pour la sculpture, si vous voulez, sauf que, comme c'est en tout petit, d'abord, on est beaucoup plus près de l'idée du signe. Je ne sais pas comment vous dire. Au lieu de décrire quelque chose, on en grave le signe. Et le signe est comme l'incarnation même de la... de la forme. C'est-à-dire que on est plus proche de d'être dans le signe dans le signe de la forme que d'une description de la forme à cause de cette taille, de cette petite taille. Mais en même temps, c'est exactement ce qui est intéressant pour moi dans la gravure, c'est sur 4 ou 5 cm faire tenir 4 ou 5 mètres, vous voyez, c'est de faire tenir de l'énorme dans du tout petit. Et donc là, forcément, on inscrit le signe de cette forme recherchée.
Et c'est ce travail.
Ah, ça, c'est ce livre. Ce livre, c'est ça. C'est toutes les essais de gravure autour de ce corps allongé qui devient un peu baleine sur la fin, bizarrement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait comme essai jusqu'ici de gravure à ce sujet. Et comme pratiquement toutes mes gravures, ça a été ce sujet, voilà.
Vous concluez en disant « Je pensais à ces petites gravures du siècle dernier qui représentent des scènes de chasse à la baleine, narration pour ceux qui sont restés à terre, de l'immense périple et des dangers encourus, mémoire pour tous d'une histoire aux confins des possibilités de l'homme, et j'aurais aimé que mes petites vignettes puissent faire souvenir de cette autre poursuite, inaperçue celle-ci. »
C'est sûr.
Merci Pierre-Édouard.
Merci.
Alors rappelons que ce livre « Déesse des baleines » est publié chez William Black & Co. Édition, qu'il paraîtra en juin 2013, mais que vous pouvez vous le procurer dès maintenant, dès le mois de mars, à la galerie Document 15, rue de l'Échaudé, 15 rue de l'Échaudé, et que vous pourrez voir pendant 3 semaines l'exposition des gravures qui sont représentées dans ce livre, des gravures de Pierre-Édouard Alloforte. Retrouvez d'autres émissions en compagnie de Pierre-Édouard sur Canal Académie en tapant son nom, Pierre-Édouard, dans le moteur de recherche sur notre page d'accueil.